Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était un soir de Noël de 1951. Assel, qui était son épouse depuis peu, mais sa compagne depuis 1917, la comédienne Raymond, Blaise Sandrars racontait ses Noëls. Des Noëls du monde entier, pour celui qui était présenté dans l'émission d'Albert Riera que nous allons entendre, comme le plus fameux bourlingueur de la poésie française. Et en effet, entendre Sandrars évoquer ses souvenirs de Noël, c'est un peu comme feuilleter les aventures de Tintin. Noël en Chine, Noël chez les Peaux-Rouges du Nouveau-Mexique, Noël à Terre-Neuve, Noël sur un cargo faisant route vers New York, Noël à Rotterdam, Noël à Bahia. Ce sont aussi des souvenirs émouvants et cocasses de la guerre en 1914, alors qu'il était au front, engagé dans la Légion étrangère, de sa dernière rencontre avec Max Jacob en 1921, pendant une messe de minuit, et encore d'un Noël chez le menuisier d'un petit village de Seine-et-Oise qu'il aurait voulu entraîner au bœuf sur le toit. Blaise Sandrars, qui, dans cette nuit de la nativité, devenait mélancolique en évoquant le souvenir de ses amis du temps passé, dont Jean Cocteau était alors l'un des seuls survivants. Noël du monde entier, une émission diffusée la première fois sur Paris Inter le 25 décembre 1951.
Noël du monde entier, par Blaise Sandrars. Une production de Nino Franck, présentée par Raymond et Blaise Sandrars. Réalisation d'Albert Riera. Ce soir de Noël 1951, le monde entier est l'invité de Blaise Sandrars, qui s'en est fait le poète depuis bientôt un demi-siècle. Près de son feu, un vieux carrick sur ses épaules, la cigarette au coin des lèvres. Voilà Blaise Sandrars, une fois de plus, en présence de la boule qui tourne infatigablement, ce soir de Noël, pour le rendez-vous des souvenirs. Sa femme, l'excellente comédienne qu'est Raymond, veut bien aider le poète à retrouver les chemins du passé par le truchement de musique de partout. Ouvrons donc notre micro tout grand pour écouter les images de Noël du plus fameux bourlingueur de la poésie française.
Il me fait mal, ce n'est pas tout à fait le genre de musique que j'aime. Et si tu me versais un whisky?
Attends, je vais d'abord changer de disque et tu me raconteras une belle nuit de Noël. Toi qui as fait la bombe dans tous les coins du monde, tu as bien le souvenir d'une bombe carabinée une nuit de Noël?
Oui, bien sûr, une nuit de réveillon. Place Pigalle ou à Clichy.
Oh, si tu veux, mais je préfère que tu me racontes une nuit de Noël à l'étranger, par exemple à l'autre bout du monde. Dis-moi, Blaise, quel est ton plus beau souvenir de Noël?
Le plus beau souvenir, c'est ma nuit de Noël à Légion, Noël 14.
C'est gai?
C'est rigolo? Ça dépend. En tout cas, c'est un grand souvenir, tu vas voir. Donc, la Légion était en ligne dans la Somme. Le corps franc occupait la ferme en selle, un carré de bâtiment juste au pied d'un calvaire fortifié par les Allemands. De leur fortin, là-haut, les Allemands plongeaient dans la cour, avec leur petit canon maxime, nous canardaient comme des faisans et nous menaient la visure. Nous avions décidé, trois camarades et moi, histoire de rire, nous dégourdir un peu, de profiter de la nuit de Noël, quand les Allemands chanteraient leur cantique et que les sentinelles elles-mêmes deviendraient sentimentales, de monter au caverne et de leur jouer un tour de notre façon. J'avais trouvé un phonot dans la ferme à un moment donné. Nous avions l'intention d'aller placer le phonot dans le réseau des barbelés allemands qui en serraient le calvaire de très près.
Pourquoi un phono?
Laisse-moi finir. Tu voulais une histoire de bombe carabinée. Eh bien, je te prends au mot. La voici la bombe, notre bombe de Noël. Pour corser la chose, nous placerions une bombe sous l'appareil et un chapelet de pétards dans les barbelés.
Tu me fais peur.
Les occasions de rigoler étaient rares, comprends-tu, cette année-là. Donc, il y avait à peu près 400 mètres de la ferme en selle jusqu'au barbelé du calvaire. On montait, on avançait. C'était extraordinaire. On avait la sensation d'être vu non seulement par les millions d'étoiles qui nous contemplaient du haut des cieux, mais par tous les yeux des deux armées rangées en demi-cercle autour de nous, sans rien dire des sentinelles ennemies qui devaient nous guetter.
Ça va faire du vilain.
Je marquais souvent un temps d'arrêt parce que mon pouls me faisait mal. Et je perdais conscience à force de prendre conscience du danger. Et tout à coup, nous y étions, le cœur battant, suant de peur, couchés au ras de la coulée de terre fraîche qui dévalait du sommet du calvaire à moins d'un mètre des barbelés. On aurait dit l'entrée d'une cage fantastique contenant non pas les oiseaux des îles ou pas cette nuit de Noël des anges annonçant la paix aux âmes de bonne volonté, mais un bruit de bottes et des rires rauques.
Ils étaient là, ils attendaient minuit, les pauvres, la minuit de Noël.
Oui, nous aussi. Et on se mit au boulot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et tout à coup, Noël! On y voyait comme en plein jour. Oh, ce fut un beau feu d'artifice. On avait bien rigolé. Telle fut ma nuit de Noël 14 de la Légion étrangère.
Drôle de nuit. C'est pas ce que j'appelle une belle nuit de Noël. Alors j'aime encore mieux les gosses qui chantent. Tiens, écoute les grelots de la diligence qui arrivent ventre à terre. Moi, je les ai vus, les rois mages. C'est même à moi qu'ils sont venus apporter leurs cadeaux. Car le petit Jésus, c'était moi.
Toi? Comment ça? Raconte-moi cette Noël-là.
Oh, ça se passait il y a bien longtemps, à Aix-en-Provence. J'étais encore une toute petite fille de 4 ans, 5 ans. Et on préparait la pastorale. Tu sais qu'on fait une vraie crèche avec des personnages vivants. C'est encore plus beau que le théâtre. En ce temps-là, on voyait encore dans le pays Pétalugue ou Papillon qui jouait avec gros succès Lucrèce Borgnasse. Mais le soir de Noël, tout le monde allait voir la crèche au passage à gare.
Et tous les personnages étaient en chair et en os?
Tous, sauf le bœuf qui était en carton. Il y avait la Sainte Vierge, un vrai âne, le petit Jésus avec juste un chiffon autour des reins, c'était moi. Il y avait encore l'ange Bouffareu, l'ange du Mistral qui souffle le vent. Moi, comme je suis gauchère, on m'avait fait répéter pendant des semaines pour que j'apprenne à faire le signe de la croix de la main droite. Seulement, quand ça a commencé, que l'archevêque a été là, alors j'ai perdu la tête. J'ai tout fait de travers. Je me suis signée de la main gauche pendant qu'on chantait la marche des rois. Et l'archevêque a éclaté de rire devant mon innocence.
Et les rois mages?
Oh ben eux, ils n'ont pas bronché. Le meunier est venu annoncer leur arrivée au roi Hérode. Sire, ce sont les rois mages. Combien qu'ils sont? Dit le roi. Sire, ils sont trois. Et le roi répond, dites-y qu'il rentre la moitié. Je te le traduis du patois provençal.
Thank you.
Mon histoire ne finit pas là. Quand je suis montée à Paris, 10 ans plus tard, ce fut avec une recommandation de l'archevêque qui se souvenait de moi. Il s'adressait au père Honoré du bon théâtre d'Auteuil. Et c'est là que j'ai fait mes débuts au théâtre. Je jouais Daniel dans La Fosse aux Lions. Et j'ai failli faire la connaissance de notre comédien qui venait de jouer à Auteuil, qui devint par la suite mon directeur et avec qui je devais travailler pendant 30 ans. Il s'appelait Louis Jouvet.
Non. Eh bien, ta Noël finit bien.
Moi, j'aime les Noëls qui finissent bien, où les enfants chantent autour d'un arbre illuminé, dans les pays que je ne connais pas et que je peux seulement imaginer.
La crèche de Provence me fait penser à une autre crèche, à une autre nuit de Noël.
Oh, raconte, au moins c'est à l'autre bout du monde.
Tout à fait, le vrai bout du monde. Seulement, je te préviens, Raymond, c'est une image de Noël qui n'a rien d'attendrissant, ou du moins pas au sens où on l'entend communément.
C'est encore une histoire de bombardement?
Pas du tout. Juste quelques coups de fusil, et encore, le strict nécessaire. Ça se passe en Chine, vers 1929, et puisque tu aimes la musique, tiens, écoute. Nous sommes donc en Chine, en 1929-30, et il y a une crèche. C'est même une crèche comme la tienne en Provence, avec des personnages vrais. Vrais, mais pas vivants. Les soldats du général Ma ont saccagé l'établissement d'une mission catholique, et ils ont massacré les pères et le bétail. Mais les soldats du général Ma connaissent le calendrier chrétien, et ils savent que c'est Noël. Alors, pour se moquer des Chinois convertis, ils ont édifié une crèche dans la neige. Si tu veux t'imaginer la scène, pense au titre du roman de Jules Janin, L'âne mort et la femme guillotinée. L'âne est mort, en effet. Mais on a réussi à mettre la carcasse debout à côté de la carcasse du buffle. Tous les autres personnages ont été disposés avec un soin presque pieux. Le petit Jésus est un gosse éventré. Les romages offrent leurs tripes et leurs membres coupés. Et la Sainte Vierge décapitée porte sa tête entre ses bras. Voilà, c'est une crèche à la chinoise. Devant, les soldats du général Ma regardent avec une attention passionnée, comme s'ils attendaient que le tableau s'anime.
Thank you.
ça t'est égal, Blaise, j'aimerais mieux que nous rentrions en Europe. Dans tes Noëls, il y a toujours l'épouvante et la mort.
Ce n'est pas de l'épouvante, Raymond. Tu sais bien que je n'invente rien. Je ne fais que me souvenir.
Tiens, on va aller à Vienne. Les gosses de là-bas ont une façon bien à eux de célébrer la Noël. Ça va nous changer des idées.
Oh, tu sais, comme je suis resté un grand gosse, je n'aime pas beaucoup les autres gosses.
La viennoise, ça ne te rappelle rien?
Sais-tu à qui il me fait penser? À Max Jacob. Et l'un des derniers Noëls où je l'ai vu. Cela se passait vers 1921 et Max habitait encore rue Gabriel. Il m'avait donné rendez-vous à l'église des Abbesses pour la messe de minuit. Et en fait, je lui ai vu arriver un peu à l'avance. Il s'était mis sur son 31, gibus, redingote, cravate, monocle, souillé vernis. Il avait son petit tapis sous le bras, qu'il déroula tout de suite pour s'y agenouiller. Seulement, comme il commençait à souffrir des rhumatismes, il supportait mal la station à genoux. Si bien qu'aussitôt agenouillé, il s'est relevé, sans toutefois cesser de suivre une minute le rite de la messe.
Et le petit tapis?
Le petit tapis, il le roulait pour changer de place. Il allait ailleurs, et moi derrière lui. Changeait-il de chapelle? Voilà qu'il entendait mal, alors il revenait à sa première place. Tout cela avec force courbette, des sourires et mille excuses à voix basse, en interrompant de temps qu'il fallait sa prière ou son chant. Finalement, après avoir parcouru à 3 ou 4 reprises la nef...
Les gens ne disaient rien.
Ils le connaissaient, Max. Ils avaient l'habitude. Donc, après 3 ou 4 déplacements, il me chuta décidément. J'ai mieux filé au Sacré-Cœur. J'y suis davantage chez moi. Et il est parti à la sauvette. J'ai à peine eu le temps de lui voir gravir les escaliers 4 à 4. Il était déjà loin, montant vers le sommet de la butte, son tapis roulé sous le bras, en se hâtant car il ne voulait pas rater la fin de la messe.
Oh, j'aime bien ton Noël avec Max Jacob. Je les aime mieux que les autres.
Je crois bien que c'est une des dernières fois que je l'ai vu, ce pauvre Max. Mets-lui donc un disque de musique grégorienne. Hein.
Thank you.
tu as promis que tu nous emmènerais à l'autre bout du monde.
Bon, prenons un autre bout du monde. Tiens, changeons d'hémisphère. Je t'invite à Bahia, l'ange du Brésil. Il y a une chanson là-bas qui dit que le petit Jésus est né à Bahia. Il y a 367 églises, une pour chaque jour de l'année, la 366e pour le 29 février des années bissextiles, la 367e à tout hasard, et pour être bien sûr qu'on n'a oublié personne dans la multitude des saints du calendrier.
C'est là qu'à Noël, il fait si chaud que les petits Jésus fondent dans les vitrines des magasins comme les cierges.
Oui, la Noël tombe en plein été sous le tropique. Écoute comment chante un Bahia.
Quando eu tava zangado, o meu consolo quando eu tava zangado, chegava uma menina, me fazia um agrado. Mas assim mesmo eu não ficava consolado, procurava um motivo para sempre estar zangado. E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
Ai, tem razão. Ai, tem razão, você gosta de todos e de mim não. Você jogou sua isca, prendeu meu coração. E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
Já sei que estou é mal acostumado. Já sei que estou é mal acostumado. Eu só estou contente é quando estou brigado. Por isso dizem que eu não sou bom namorado, mas só brigo pra que venham me fazer agrado. E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
Ai, tem razão. Ai, tem razão. Você gosta de todos e de mim não. Você jogou sua isca, prendeu meu coração. E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
Meu coração anda desconsolado. Meu coração anda desconsolado. Sente falta de sangue, falta de um agrado. Anda murchando, vivo até quase parado. Ele só bate forte quando briga e tá zangado. E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
Ai, tem razão. Ai, tem razão, você gosta de todos e de mim não. Você jogou sua isca, prendeu meu coração. E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
E quando um homem tá zangado, um agradinho é bom.
C'était en 1927. Comme on était en plein été austral, je n'avais pas pensé que j'arriverais dans le port de Bahia tout juste pour la Noël, et que je n'y pourrais pas m'occuper de mes affaires, parce que la ville entière est alors en fête, et que toute la population, oubliant les affaires sérieuses, s'abandonne, et jusqu'à bien après le jour de l'an, à la joie et aux réjouissances, prélude des prochaines folies du carnaval, de sa majesté Momo. Quand je mis pied à terre, le vapeur était en liesse, cris, masques, musique, cortège, cuisine en plein vent, boutique, chevaux de bois, éclats de rire, confettis, serpentins, lance-parfums. Et dans la ville haute, dégringolant sur le petit peuple en dimanche, les cloches carillonnaient avec frénésie. Et je restais étourdi en entrant dans les docks, non pas d'un coup de soleil comme il arrive sous le tropique de notre pion dans la rue, mais parce que dans la rampe où j'allais m'engager, le soleil lui-même me semblait éclater comme un pétard, tellement cette rue qui montait est brutalement colorée, avec ses guirlandes électriques allumées en plein jour, ses frontons, ses drapeaux, Ses tapis aux fenêtres, ses façades contrastées, ses maisons peintes et son arc de triomphe barbare qui donnait sur le ciel cru d'un bleu perroquet insoutenable et que de partout s'élevait sur un air engageant de musique de danse le cantique créole dont je t'ai parlé au début si plein de foi, Cristo nasceu na Bahia, le Christ est né à Bahia, et dont les versets lumèrent comme preuve de la bénédiction de Dieu, qui du fait de la naissance de l'enfant vivant a rejaillit sur la ville de sa prédilection, les bons plats de la cuisine d'Afrique, dont les noirs de Bahia se régalent encore aujourd'hui.
C'est joli, et après?
Comment après?
La fête, ça se passe comment?
Eh bien, dans chacune des 367 églises de Bahia, Bahia de Todos los Santos, l'abbé de tous les saints, le jour de la nativité, on célèbre la messe du coq, et la foule des fidèles qui se pressent autour de la crèche n'adore pas tant le divin enfant que celui des trois rois mages qui est un noir. Elle jubile à l'idée que Gaspard et son grand éléphant venu de l'Orient, du royaume de la reine de Saba, ont su mériter le paradis et ouvrir largement les portes du ciel, non seulement aux noirs africains, mais aussi à leurs animaux. C'est pourquoi dans les crèches de Bahia, le bœuf et l'âne sont souvent l'âne, un dromadaire, et le bœuf, un taureau zébu. Et qu'un cortège d'animaux domestiques indigènes les entoure, plus toutes les bêtes sauvages de la brousse de l'Ancien et du Nouveau Monde, pour se pencher sur l'enfant sang, qui est souvent un aigrillon et plus souvent encore une petite moricaude qui remue dans la paille au fond de l'église archibondée. Et puis il y a le coq.
Pourquoi le coq?
Le coq et son chant, son égorgement, les giclures de son sang tiennent une grande place dans la sorcellerie nègre. Alors il est dans la crèche. Son sacrifice est d'un usage courant. J'ai vu dans une crèche de Bahia un coq vivant prendre la place de l'étoile de Bethléem. Dans une autre église, un coq mort était fiché sur l'étoile par une longue flèche. Dans une petite chapelle, un coq noir était transpercé par une épée dorée, d'où jaillissaient zigzagant dans un ciel d'orage trois éclairs portant en lettres de goudron le nom d'Hérode.
Ça y est, tu vas encore te mettre à raconter des choses affreuses.
Mais non, Raymond, pas du tout. Généralement, les crèches de Bahia ne sont pas lugubres. Et à quelques exceptions près, la messe du coq n'est pas une tragédie. On y célèbre la joie de vivre, d'être au monde. Et les animaux de la création, comme dans les fables d'Afrique, y tiennent le premier rôle. Même qu'au milieu des prières et des psaumes, les assistants imitent le cri des bêtes, les uns barissent, les autres mugissent, bêlent, beuglent, aboient, jagipent, jappent, sifflent, roucoulent, poussent des cocoricos sonores qui fusent dans tous les coins, tandis que les mendiants chantent à la porte de l'église « Viva, 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 viva alegria, na casa de vossa signoria, et vive, 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 vive la joie dans la maison de vos seigneuries. »
J'aime ton Noël, Abaya. Tiens, pour t'en récompenser, je vais t'offrir un Noël bourguignon dans la grande salle des hospices de Beaune où le vin est si gai.
Thank you.
Eh bien, puisque nous sommes restés en panne à l'autre bout du monde, veux-tu que je t'emmène à présent?
Voyons, tu vas deviner. Je vais poser un disque, tu m'emmèneras au pays où cela se passe.
Je vois ce que tu veux, mais je n'ai pas le moindre petit Noël à New York à t'offrir. Mais je t'emmène chez les Indiens du Nouveau-Mexique aux environs 1927, chez les Peaux Rouges, les derniers vrais Peaux Rouges.
Ils fêtent la nativité de notre Seigneur?
Pas tout à fait, mais ils fêtent quelque chose. L'arbre de Noël est remplacé par un arc-en-ciel multicolore en papier de soie qui repose sur deux chaises. Au-dessus d'un feu qui brûle dans la nuit. Autour de ce feu et de l'arc-en-ciel, les Indiens accroupis en rond ruminent sans parler en mangeant leur piote qui rend les yeux émerveillés. Ils se sentent comme en exil dans leur propre pays.
Et ils restent comme ça toute la nuit?
Non. À un moment donné, il y a le rush. Comme poussés par ne sais quelle fureur, ils se lèvent tout à coup et bondissent sur leurs chevaux pour partir à fond de train à travers le nid cru de leur village où leurs allées et venues soulèvent des nuages de poussière. Leurs maisons sont plates avec des terrasses à la place des toits. De là-haut, les femmes les bombardent avec des melons creusés et remplis d'eau pour affoler les chevaux et les faire galoper ventre à terre. Voilà ce que c'est que Noël chez les Indiens du Nouveau-Mexique. Derrière la frontière, à quelques distances de leur village, s'étale une ville mexicaine, klaxon, enseigne lumineuse, parking, garage, et dans les boîtes de nuit monte la joie nostalgique des longs champs d'hiver.
Joven querida, y es que al gol ya lo cerré. ¿Para qué quiero vida sin honrar, si malamente jugué? ser, me maten y acabo y que. Yo como creído me equivoqué, triste en mi vida. Joven querida, y ese albur ya lo cerré. Para que quiero vida sin honra, si malamente jugué. Si me matan en tus brazos, que me maten y al cabo y que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era prove, yo mi vida la hipotequé. Y todavía el valor me sobra, y hasta hombre pude poseer. Si me matan, no me apresan en mi gusto y está muy que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Como era prove, yo mi vida la hipotequé. Y todavía el valor me sobra, y hasta donde podía poseer. Si me matan, no me apresan, es mi gusto ya acabo y caer.
C'est joli de voyager comme ça dans la nuit de Noël, sans quitter son feu. Où m'emmènes-tu à présent?
C'est toi qui oriente le pick-up, Raymond. Je te suis où tu voudras.
Je vais mettre encore un disque. Tu vas deviner où je voudrais que tu nous conduises.
Je vois ton idée, Raymond.
Je pense au Transsibérien, aux longues nuits du Transsibérien.
Oui, mais moi, sais-tu à quoi ça me fait penser, ton disque? À des chants du même genre, à une autre nuit de Noël, une drôle de Noël. Mais cela ne se passait pas dans le Transsibérien. Cela se passait en 1911, à bord du Volturno, un cargo qui venait d'embarquer à Libava pour les transporter à New York. Une pleine cargaison des plus pauvres émigrants du monde, parmi lesquels je me trouvais en qualité d'interprète.
Tu venais d'écrire la prose du Transsibérien, tu allais écrire les Pâques à New York.
Si tu veux. Le Volturno était un tout petit cargo, rien du transatlantique, tu sais, mais un bon petit sabot qui tenait bien la mer. On y crevait quand même de froid et aussi un peu de faim. Il était archi bourré de pauvres, des pauvres de tous les coins des pays d'Asie, et des Sibériens, des Tartares, et des Géorgiens, des Persans, et des Arméniens, et des Kirghizes, et des Mahométans de la région des pétroles et des bouddhistes nomades de la région des steppes, plus quelques rares Chinois du Nord, des géants, et puis des Juifs, une quantité de pauvres Juifs qui venaient de tous les ghettos de la Pologne, et qui, eux, chantaient par groupe pour tromper leur inquiétude et dire leur attente du nouveau monde, la terre promise. Le voyage a été long, 28 jours. C'est que nous nous sommes trouvés pris aux approches de la Noël dans une tempête épouvantable autour de laquelle le Volturno a perdu son hélice. Et nous voici à la dérive, à la merci des courants, au large de Terre-Neuve, un tout petit vapeur surchargé d'hommes. 800 émigrants à bord et en proie à la panique. On avait dû fermer les sabords et boucher toutes les ouvertures pour maintenir cette masse d'hommes dans les fonds. La coque dansante du Volturno retentissait des lamentations de tous ces malheureux enfermés à fond de cale et dont personne ne se souciait. Avec le Bosco et le maître coq, qui étaient devenus des amis, descendit un jour dans cet enfer voir ce qui s'y passait.
Et Noël?
Noël? À Terre-Neuve. Nous avons dû faire une longue escale à Saint-Jean pour remplacer l'hélice. C'est l'une des Noëls les plus étranges de ma vie, avec tous ces compagnons de misère, cette foule hétéroclite rassemblée dans un bistrot du port pour remercier le ciel d'avoir échappé au grand danger et atteint la terre promise. Chacun célébra son Dieu en lui rendant grâce à sa façon. Les Parsis en extase devant les flammes dansantes du feu qu'ils entretenaient versant de l'eau de vie dessus, les Juifs debout et chapeautés, comme devant le mur des lamentations, déchirant le haut de leur caftan, et le plus grand nombre muets, imbéciles d'horreur, mis en prière, Dieu est Dieu.
Thank you.
Tiens, le vautour me rappelle un autre Noël maritime, à Rotterdam. C'était pendant le dernier voyage que j'ai fait à bord de ce dernier cargo. Je m'étais lié avec Peter van der Kerr, l'écrivain du bord, et ce dernier, à l'occasion de cette escale inhabituelle à Rotterdam, avait décidé d'aller dire bonjour à sa sœur, qu'il n'avait pas revue depuis 10 ans. Il la savait mariée à un cheminot, et mère de famille, mais il ne savait plus combien de petits elle avait tués au juste. Cependant, comme il avait le sens de la famille, Peter traînait sur son dos un sac qu'il avait rempli des joujoux achetés un peu partout dans le monde entier, au hasard de ses escales. Des poupées japonaises et des santons mexicains, des grands fétiches polynésiens et des idioties de nègre avec un bout de miroir dans le ventre, et des colliers et des coquillages et de la verroterie, et des oiseaux indiens dans leurs touffes éblouissantes de plumes ébouriffées que l'on suspend à un fil invisible et qui semblent voler tellement ils sont sensibles au moindre courant d'air, et des grenouilles du Guatemala qui ont un élastique à tortiller dans le ventre et qui coassent et se culbutent quand on les lâche sur une table, et des chouettes petites mécaniques achetées à New York pour les garçons.
Vous étiez vraiment de Père Noël?
Oui, et il faisait un vrai temps de Père Noël. Il brunait, il y avait des coups de vent furieux. Nous passions au cœur du Bloom, le fameux quartier réservé de Rotterdam, qui n'était pas brûlant du tout, ou alors ce n'était pas encore l'heure. Les maisons lépreuses plongeaient dans l'eau noire du canal, et à chaque coup de vent, des briques venaient s'écraser sur la chaussée comme des chiques molles et juteuses. On entendait la tour convulsive des pianolas automatiques, ou les cris sonores de coqueluches des orgues pneumatiques s'échappant par la porte vivement rabattue des estaminets, et les lamentations enrouées des orgues de barbarie. Nous avons fini par arriver entre digues et polders à la masure qu'habitait la sœur de mon ami. Et là, nous sommes tombés sur la marmaille qui jouait sous un hangar avec une vieille caisse à savon. Combien il y en avait? Je ne sais plus. 6, 7, 8. Il y avait Yantje, l'aîné, 10 ans, et Sianke, le dernier, 1 an, sur les genoux de l'aîné qui lui donnait le biberon, puis les 2 onces et pire, qui étaient jumeaux, et encore Flip, Gus, Tantje, la petite vipère noire, et je ne sais plus qui, j'en oublie. D'ailleurs, la série n'était pas finie. La sœur de mon compagnon attendait un nouveau marmot dans la petite ferme perdue dans les landes sursaturées d'eau, et Peter rentra dans la chambre assister sa sœur l'embrasser.
À la bonne heure.
J'ai donc commencé à déballer les sacs de jouets de l'oncle, pour Tiontia qui hurlait avec un petit énergumène, l'automobile rouge des pompiers de New York à la grande échelle, pour Flip qui pleurait, Aigus qui riait, les grenouilles qui sautaient et coassaient, pour Père la grosse tête, les masses d'Afrique et les flèches, pour Fonce les poupées et les oiseaux du Guatemala, et j'avais encore une crèche avec son petit Jésus de Mexico et tous ces petits personnages exotiques, et puis il y avait encore un carton de confiserie un peu gondolé par la pluie, avec des tartelettes, des cornets à la crème, des meringues, des millefeuilles, des gâteaux fourrés au chocolat, au sommet d'amandes, de cannelle, de vanille, d'angélique, de guigne confite, saupoudrés au glacé de sucre, des babas au rhum, des puits d'amour que j'avais apportés.
Et les gosses, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ils ne bougeaient pas. Ils n'y touchaient pas. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ces jouets étaient allés là, les épatés trop pour ne pas dire qu'ils les épouvantaient. Et tous ces gâteaux, ils ne savaient pas si ça se mangeait. Soudain, l'un s'est mis à pleurer, les autres de hurler. Et tout à coup, la maison entière était remplie de cris suraigus, de gémissements, de plaintes, comme si l'on avait saigné le cochon à la cuisine. J'ai vu accourir Peters qui m'a dit, « Foutons le camp, c'est ma sœur qui accouche, c'est atroce, c'est épouvantable, on n'en a pas idée !» Il était en colère. Nous avons fui comme des voleurs. Les écluses du ciel s'étaient ouvertes, il pleuvait de l'eau tiède, étrange, saumâtre, qui entraînait des particules d'écailles de harengs comme s'il se fût déversé du sourire.
Et après?
Après? Cela s'est terminé au Mitternacht Tango pour la plus extraordinaire bagarre à laquelle j'ai participé de ma vie. Et je n'oublierai jamais ce que peut faire de bruit ou de musique quand casse un piano venant se fracasser au sol tombant d'un troisième étage. 1000 chats qui miaulent dans la nuit, 1000 chats en chaleur.
Oh, tu me permettras de préférer d'autres musiques. Tiens, cette nuit de Noël chèque en hommage aux innombrables petits-neveux de l'écrivain du bord du Volturne. Continent nous emmènes-tu?
Tu n'as pas assez de te balader ainsi aux quatre points cardinaux, au lieu de rester l'imagination en paix au coin du feu? Attends, je vais préparer un punch créole, j'ai soif.
Encore un souvenir de Noël, le dernier, puis on mettra le monde entier à la porte et j'allumerai ma crèche de Provence.
Eh bien, je vais te raconter mon réveillon avec le père Mars au Tremblay-sur-Mauldre, Seine-et-Oise, où j'avais acheté une vieille bicoque. Le père Mars, tu peux l'imaginer sous l'aspect de Saint-Joseph qui était charpentier. Le père Mars, lui, était le menuisier du village. Un artisan à la vieille mode qui n'avait jamais planté un clou dans une planche. Car ça ne se fait pas. Il se servait de bois sec et de chevilles d'acacia pour fabriquer des jouets qui étaient renommés dans tous les châteaux, à 100 lieues à la ronde. Cela se passait au lendemain de l'autre guerre et le père Mars n'était jamais allé à Paris, à peine à 36 kilomètres du Tremblay, et il avait une auto. Quand il avait besoin d'accessoires pour les jouets ou les meubles qu'il allait livrer dans sa camionnette normande, il envoyait sa femme les chercher à Paris. Madame Mars prenait le train, partait dans sa robe noire, avec son bonnet blanc, son panier à provisions au bras, pour casser la croûte à Paris, et la liste des choses à acheter. Elle revenait le soir absolument fourbue. Son mari la regardait comme le réchappé de l'enfer. Bon, figure-toi que je m'étais mise en tête d'amener le père Mars réveillonné à Paris au bœuf sur le toit. Et après de nombreuses conversations, j'avais obtenu son acceptation. Nous avons parlé tout l'été de ce voyage qui lui inspirait la plus vive inquiétude.
Quelle drôle d'idée de l'emmener au bœuf sur le toit.
Bah, une idée comme ça. J'aimais beaucoup le père Mars, et je voulais boire un magnum avec lui. Avec lui, les amis du bœuf, à qui j'avais si souvent parlé du menuisier du Tremblay, un artisan ingénu, un vieux maître. Tu sais ce qu'étaient ces réveillons du bœuf? À la grande époque de Moïse, quand Jean Wiener et Clément Doucet jouaient sans fin sur leurs deux pianos accouplés.
Thank you.
J'avais retenu ma table au bœuf et je savais qui j'y retrouverais. Il y aurait la douairière, la vieille duchesse d'Uzès, louvetière de France, fumant sa pipe et buvant sa bouteille de Bordeaux. Il y aurait Coco Chanel, toujours solitaire à sa table. Quand le jazz s'animerait, Jean, le cheveu fou, Jean Cocteau s'installerait à la batterie. Il y aurait Marchenal qui essayerait une fois de plus de faire danser Ambroise Vollard. Il y aurait l'imprimeur Peignot Junior qui, un soir de Noël, sortant du bœuf, était descendu avec sa voiture dans la bouche du métro de la Madeleine et avait réussi à remonter en marche arrière. Il y aurait Madame Lègue avec son célèbre collier de perles, Missia Certes, le jeune Auric, ce vieux Fargue.
Et le père Mars.
J'y viens. Le soir du réveillon, je l'attendais, ma voiture devant la porte, impatient de le mener à Paris. Il est arrivé. Il a retiré son chapeau melon. Vous voyez, je suis de parole, m'a-t-il dit. Il avait passé la redingote de son mariage et chaussé des souliers bien astiqués. Ses manchettes en baisers lui tombaient sur les mains. Il était tout tremblant et il y avait plus que jamais peur d'aller à Paris. Je suis de parole, monsieur Sandrard, me répétait-il. Me voilà fin prêt. Mais tout de même, et j'ai bien réfléchi, et nous allons parler avec ma femme. Je n'irai pas à Paris. Je l'ai regardé, et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il avait raison. Et c'est ainsi que cette nuit-là, je suis resté moi-même avec lui au Tremblay, de la bonne ambiance de la cuisine de la mère Tissot, l'aubergiste du village, puis à la messe de minuit, une messe d'enfants chantée par les garçons de l'Île-de-France. Missia Certes, Marchenal, la duchesse d'Uzès, tous morts, tous des fantômes. Il ne reste que Cocteau, il tient toujours la batterie et mène le jeu. Dites-moi où, dans quel pays, est Flora la belle romaine, Archipiade Snétaï. Où est la sage Héloïse, la reine blanche comme le lit, Berthe au grand pied, Maîtrie, Alice, et Jeanne la bonne Lorraine qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Mais où sont les neiges d'antan? Encore un verre de vilon, et ce sera notre mot de la fin. Tant crie l'on Noël qu'il vient.
Mesdames, Messieurs, vous avez pu écouter Noël du monde entier par Blaise Cendrars, une production de Nino Franck présentée par Raymond et Blaise Cendrars. Réalisation d'Albert Riera.
Cette émission a été diffusée la première fois le 25 décembre 1951 sur Paris Inter. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.